Saint Grégoire a désigné les filles de la CEDI comme il le fallait. En effet, selon le philosophe, personne ne peut rester longtemps sans plaisir, en compagnie de la tristesse. Ce qu'il ne faut jamais oublier, du reste. C'est très important, ça. Même au plan psychologique. Hein. Personne ne peut rester longtemps sans plaisir, en compagnie de la tristesse. C'est pourquoi la tristesse a nécessairement deux résultats. Elle conduit l'un à s'écarter de ce qui l'attriste. Et elle le fait passer à d'autres choses en lesquelles il trouve son plaisir. On essaie par tous les moyens d'en sortir de cette tristesse. Et c'est pour ça que, alors on est beaucoup plus facilement orienté vers des choses qu'on n'aurait pas pensé autrement, qu'on n'aurait pas considéré autrement. Ainsi, ceux qui ne peuvent goûter les joies spirituelles se portent vers les joies corporelles, comme le faisait remarquer le philosophe. Dans ce mouvement de fuite par rapport à la tristesse, se remarque le processus suivant. D'abord, l'homme fuit les choses qui l'attristent. Et puis, il en vient à combattre les choses qui lui apportent la tristesse. Or, les biens spirituels dont s'attriste la CEDI ont trait à la fin et aux moyens qui regardent la fin. C'est par le désespoir que l'on fuit la fin. C'est par la pusillanimité que l'on fuit les moyens qui regardent la fin. S'il s'agit de biens difficiles appartenant à la voie des conseils, et par la torpeur vis-à-vis des commandements, s'il s'agit des biens qui appartiennent à la justice commune. Le combat contre les biens spirituels, attristants, est parfois mené comme les hommes qui les proposent. Et c'est alors la rancœur. Parfois, le combat s'étend aux biens spirituels eux-mêmes, ce qui conduit à les détester. Et c'est alors la malice proprement dite. Enfin, lorsqu'en raison de la tristesse due aux choses spirituelles, on se porte vers les choses extérieures qui procurent du plaisir, la fille de la CEDI est alors la course vagabonde autour des choses défendues. La réponse à faire aux difficultés que pose chaque fille de la CEDI est donc claire. En effet, la malice n'est pas prise ici comme la caractéristique de toutes les vices, mais comme nous l'avons déjà dit. La rancœur n'est pas prise ici en son acception générale, comme la haine, mais comme une mauvaise humeur. Il en faut en dire autant des autres filles. Ce serait très intéressant, ça, à étudier de près, du point de vue psychologique, parce que je crois que là, on touche quelque chose qui est intéressant, de voir comment la tristesse désagrège. Une tristesse désagrège. La joie, au contraire, elle permet de structurer notre propre personnalité. Par le point de vue de l'amour, la joie structure notre personnalité, alors qu'une tristesse à l'égard des biens spirituels, donc à l'égard de notre propre finalité, fait que nous ne pouvons plus supporter cela. Alors nous fuyons ce qui normalement devrait nous attirer. Et c'est en ce sens-là qu'elle est source de désagrégation à l'égard de tout ce qui est la structure même de notre propre personne. Vous voyez, et là, Saint Thomas reprend bien ces différents aspects qui, je crois, sont assez justes à bien voir la malice, la rancœur, la pusillanimité, le découragement, la torpeur vis-à-vis des commandements, le vagabondage de l'esprit autour des choses défendues. Et c'est toutes ces choses-là, en effet, on s'en soi-même du reste. Mais si on ne lutte pas contre la sédie, mais on sera à ce moment-là en dehors de ce qui est notre vie habituelle. Et alors on essaiera par tous les moyens de trouver d'autres moyens de ne plus faire ce qu'on doit faire. Et c'est le vagabondage. On veut se distraire. On laisse entrer en nous n'importe quelle chose qui peuvent lutter contre la tristesse. Étant donné que la tristesse est vraiment ce qui, pour nous, est toujours la chose la plus dure à porter. C'est pas ce que disent les psychanalystes, là. Il y a quelque chose de juste qu'il ne faut jamais oublier. C'est qu'il faut toujours, s'il y a une certaine tristesse à porter, il faut une compensation du côté de la joie. Et qu'un être humain ne peut pas vivre uniquement dans la tristesse. Et que s'il vit dans la tristesse, et s'il est pris par cette tristesse, et qu'il y consent, à ce moment-là, il se détruit. Il y a une espèce d'autodestruction. Et cette autodestruction provenant justement de la tristesse. Une tristesse qui nous saisit, surtout quand cette tristesse nous saisit vis-à-vis de ce qui est le plus nous-mêmes, notre lien avec Dieu, notre lien avec les choses proprement spirituelles, divines. Troisième objection, Saint Isidore, au livre du souverain bien, distingue le vice d'assédie du vice de tristesse. Il y a tristesse, dit-il, quand on s'écarte d'un devoir désagréable et pénible auquel on est tenu. Assédie, quand on se laisse aller à une inaction coupable. Vous voyez, il porte l'assédie uniquement par rapport à l'inaction coupable, désœuvrée. On ne veut plus faire ce qui nous est demandé. Et il ajoute que de la tristesse viennent le dégoût, la pusillanimité, l'amertume, le désespoir. Et de l'assédie viennent cette fille, savoir l'inaction, l'indolence, le papillonnage de l'esprit, l'agitation corporelle, l'instabilité, le bavardage et la curiosité. Il semble donc que Saint Grégoire ou Saint Isidore se trompe en faisant de la sédie un vice capital ayant une progéniture. C'est très joli ça. Là on tombe dans des choses, évidemment, on voit très bien ces deux aspects. Ce qui est intéressant, c'est de voir la distinction que fait Saint Isidore ici, n'est-ce pas, entre le point de vue de la tristesse. Il y a tristesse, dit-il, quand on s'écarte du devoir désagréable et pénible auquel on est tenu. Et elle s'est dit, quand on se laisse aller à une inaction coupable. Voici la réponse de saint Thomas. Cassien distingue lui aussi la tristesse de la sédie. Mais saint Grégoire a raison de dire que la sédie est une tristesse. Car, nous l'avons vu plus haut, la tristesse n'est pas un vice différent des autres. Chez celui qui repousse un travail pénible et fatigant, ou chez celui qui s'attriste pour quelque autre raison, mais seulement chez celui qui s'attriste du bien divin. Cela fait partie de la définition de la sédie. Qui se laisse aller à une inaction coupable dans la mesure où il repousse le bien divin. Et ce qu'Isidore nous dit provient de la tristesse et de la sédie, bon, mais ce qu'Isidore nous dit, provenir ce que nous dit provenir de la sédie et de la tristesse se ramène aux affirmations de Saint Grégoire. Car l'amertume qu'Isidore fait venir de la tristesse est un certain effet de la rancœur. Et l'inaction, la nonchalance, se ramène à la torpeur en face des commandements. Celui qui est inactif les omet complètement. Celui qui est nonchalant les accomplit avec négligence. Les cinq autres vices qu'il fait venir de la sédie appartiennent tous au vagabondage de l'esprit autour des choses défendues. Quand il appartient au sommet de l'esprit chez celui qui se répand à contre-temps en des occupations variées, on l'appelle le papillonnage de l'esprit. Quand il appartient à la puissance de connaissance, on l'appelle la curiosité. Quand il appartient à la faculté d'élocution, on l'appelle le bavardage. Quand il appartient au corps, incapable de demeurer en un même lieu, on l'appelle l'agitation corporelle. Si l'on veut signaler le vagabondage de l'esprit que manifestent les membres se répandant en mouvement désordonné, l'instabilité, si l'on veut signaler la diversité des lieux. L'instabilité peut s'étendre encore d'une variabilité dans les projets. Vous voyez là, saint Thomas montre comment on ne peut pas séparer ces deux quand il s'agit proprement de la sédie. La sédie est vraiment cette tristesse à l'égard du bien divin. Et donc la sédie va impliquer nécessairement aussi le fait de l'inaction, mais c'est lié à la tristesse. Et c'est la tristesse qui cette tristesse à l'égard du bien divin qui nous accable, qui nous met dans cette attitude d'inaction. Donc quand on distingue, il y a tristesse ici, quand on s'écarte du devoir désagréable et pénible, assédie quand on se laisse aller à une inaction coupable. C'est vraiment la tristesse elle-même qui est une inaction. Elle nous inhibe complètement. C'est ce qu'on dira au point de vue psychologique. Elle nous inhibe complètement. La tristesse nous inhibe. Elle a cette faculté particulière de nous inhiber complètement, de nous mettre dans une impossibilité d'agir. Et quand cette tristesse est justement acceptée, voulue, alors à ce moment-là, elle nous met vraiment dans une inaction totale. Mais la source, c'est vraiment bien la tristesse. Et elle ne peut pas se séparer des deux. On ne peut pas les séparer les deux. Les deux s'unissent. Et donc, au fond, tout ce que saint Isidore considère comme les conséquences de la sédie, vous voyez comment saint Thomas les rattache tous à ce que dit saint Grégoire. Donc c'est ramener ce que saint Isidore décrit, c'est une description. C'est forcé du reste, un peu une description quand il s'agit du mal. Cette description que donne saint Isidore, saint Thomas la ramène à ce que saint Grégoire considère comme les vices, comme les filles de la sédie. Et au fond, ce que saint Grégoire dit, saint Thomas le considère comme plus profond, comme allant plus loin. Et donc l'autre doit être ramené à cela. C'est intéressant comme aspect descriptif, ce que saint Isidore dit, mais il faut le ramener à saint Grégoire. Alors on pose la question, comment passe-t-on du fait de pâtir Dieu à l'oraison à la sédie? Il est bien évident que la sédie n'arrive pas d'un seul coup. Ça, je crois. Que la sédie ne se déclare pas immédiatement. C'est pour ça qu'on considère ordinairement que ce n'est qu'au bout d'un certain temps. Tant qu'il y a une ferveur, une joie, il n'y a pas d'assédie. Sûrement pas. L'assédie, je crois, provient que notre patience divine, c'est-à-dire au fond notre espérance. Petit à petit s'émousse. Alors il n'y a plus cette force de conquête. Il n'y a plus ce renouveau constant. Que demande l'amour, que demande la charité. Ce renouveau constant qui fait que même s'il n'y a pas de joie, on maintient cette volonté d'aimer. Parce que c'est là où on voit la possibilité que la Cédille peut entrer. La charité implique cette volonté d'aimer. Et tant qu'on maintient en nous cette volonté d'aimer au-dessus de tout, sans regarder les résultats, sans regarder ce qui est second, l'important c'est cette volonté d'aimer. C'est ça qui commande tout dans l'ordre de l'amour, puisque de fait, nous le savons bien, les vertus théologales sont au-delà du point de vue psychologique. Et la seule manière où les vertus théologales touchent notre conscience, c'est par notre volonté d'aimer. C'est donc cette volonté d'aimer qui nous maintient toujours au niveau des vertus théologales. C'est pas le résultat des vertus théologales qui nous maintient au niveau des vertus théologales. Quand nous faisons trop attention au résultat, à la joie, ou au contraire, à la non-joie, petit à petit, cette volonté d'aimer n'a plus la même force de conquête. Et alors, à ce moment-là, nous risquons de nous replier sur nous-mêmes, parce que la Cédille, c'est un repli sur soi, c'est bien évident. C'est un repli sur soi par rapport aux vertus théologales et par rapport à la charité. Alors, comme c'est un repli sur soi, alors que la charité, c'est juste l'inverse. La charité est extatique. Elle nous porte vers Dieu, vers le Christ, et elle nous empêche de rester enfermé sur soi. La charité nous fait être attiré vers Dieu, attiré par le Christ, attiré par le Père. Si nous sommes attirés par le Père, mais nous ne nous regardons plus. C'est uniquement le Père qui nous attire par son Fils bien-aimé. Nous nous sommes attirés par le Christ et nous ne nous regardons plus. La joie qu'on peut avoir ou la tristesse qu'on peut avoir, c'est tout à fait secondaire. Ce n'est plus l'objet principal. Et pâtir Dieu, c'est nous laisser attirer par lui. C'est nous laisser attirer par le Père et par le Christ. Alors quand nous nous laissons attirer par le Père et par le Christ, nous pâtissons, mais nous répondons toujours par cette volonté d'aimer. Et c'est cette volonté d'aimer qui nous empêche de tomber dans la Cédille. Quand cette volonté d'aimer s'amollit, oui, quand il n'y a plus l'élan, quand de fait notre volonté n'a plus la même force, dès que nous nous replions sur nous-mêmes, alors la Cédille peut entrer. Vous voyez, il y aurait des analogies à prendre par rapport avec l'amour humain. Et je crois que ça nous aiderait à mieux comprendre. C'est curieux que saint Thomas ne les développe pas. Il développe toujours l'analogie du côté de l'amour d'amitié quand il s'agit de la charité. Or, c'est la même chose. Il y a quelque chose d'analogue. Il y a une usure dans la charité, dans l'amitié. Et cette usure dans l'amitié fait qu'on ne ressent plus la même joie qu'au point de départ. Et dans l'amour d'amitié, on recherche uniquement la joie de la présence de celui qu'on aime. Alors à ce moment-là, comme il y a une usure qui se fait au point de vue de ce que nous ressentons, nous n'aimons plus l'autre pour lui-même. Et c'est le résultat de son amour sur nous que nous regardons en premier lieu. Et à ce moment-là, parce que nous ne ressentons plus la joie, cette joie d'être aimé et cette joie d'aimer, nous risquons à ce moment-là de nous enfermer sur nous-mêmes. Et nous risquons à ce moment-là de ne plus vivre de cet amour d'amitié. Alors, au plan surnaturel, vous voyez, c'est encore plus délicat. Parce que la charité s'exerce à travers la foi et à travers l'espérance. Or, ce que vous disiez tout à l'heure, et je crois que c'est la raison profonde qui nous permet de comprendre comment on peut passer de se pâtir de Dieu à la cédille, c'est que l'exercice de la charité se fait à travers notre foi et à travers l'espérance. Quand l'Esprit Saint est présent à l'exercice de la charité, on est au-delà de ce conditionnement de foi et d'espérance. Il y a quelque chose qui nous prend d'une manière plus profonde. Et alors on est pris par cet amour. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il n'y a plus cet exercice divin, et qu'on est en présence d'un exercice uniquement, si vous voulez, d'un exercice humain prudentiel, on sait qu'il faut aimer Dieu. On sait qu'il faut exercer la charité, mais c'est tellement dur, c'est tellement obscur, puisqu'il n'y a rien, il y a le silence de Dieu. Et ce silence de Dieu, alors, devient quelque chose de très lourd, puisque on ne comprend pas comment cet amour réciproque peut être un véritable amour réciproque, puisqu'il y a ce silence de Dieu. Ce silence de Dieu provient tout simplement du fait même de la foi et de l'espérance. La foi dans l'obscurité et l'espérance du pauvre. Alors ce silence de Dieu devient comme intolérable. Et s'il n'y a pas cette volonté constante de reprendre tout à la racine, on voit très bien comment progressivement, ce silence de Dieu devient intolérable et on n'exerce plus notre volonté. Nous laissons inhibés par cette tristesse, par ce poids. Alors je crois que la cédille peut prendre là deux caractères différents. Revenant du silence de Dieu au point de vue de la foi et provenant de cette pauvreté de l'espérance. On ne voit aucun résultat. Et c'est pour ça que je crois que pour éviter la cédille, c'est toujours la patience de l'espérance. Et c'est toujours l'acceptation de la petitesse dans laquelle la foi nous met. C'est là où on verrait qu'il y a des liens entre la cédille et l'orgueil. Je crois. Je crois qu'il y a des liens. Vous voyez, nous n'acceptons pas le régime de la foi. Nous n'acceptons pas le régime de l'espérance. Alors, n'acceptant pas le régime de la foi et de l'espérance, par orgueil, on n'accepte pas de pâtir divine, de pâtir autant que Dieu le voudra. On se laisse prendre par les résultats tangibles. C'est toujours la même chose, au fond. C'est tellement difficile de maintenir en nous le regard de Dieu sur nous. Nous sommes des êtres qui voulons toucher les résultats. Et je crois que très, très, très fort la cédille provient de cela. On n'est pas assez dans ce regard de Dieu qui ne regarde que nos intentions. Mais si nous maintenions des intentions pures, hein, des intentions du cœur pur, la béatitude des cœurs purs, la béatitude des cœurs purs, c'est justement ce fait d'accepter cette foi où on est dans la nudité. Ce que Saint Jean de la Croix dira, on est dans la nudité. Et si on accepte cette nudité, de ne rien ressentir dans l'ordre de l'amour, parce qu'on veut accepter cette nudité et on veut aimer dans une gratuité absolue, dans une volonté de don. Alors à ce moment-là, on lutte contre la cédille. La cédille ne peut plus mordre. La cédille a une emprise sur nous par le point de vue de la foi et de l'espérance. Le conditionnement de notre exercice de charité. Le conditionnement humain de notre charité. On pose la question, la cédille n'est-elle pas directement la fille de l'orgueil? Bon, très bien. Je ne l'avais pas lu avant. Très proche du péché de Satan qui refuse l'effacement de l'intelligence devant le cœur. Oui, tout à fait. On veut sentir... Enfin, sentir au sens très spirituel, vous voyez, pas sentir uniquement auprès du sensible. On n'accepte pas le silence de Dieu. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de ça. On n'accepte pas le silence du Père, le silence de Jésus, qui n'est acceptable que dans l'amour. Mais l'intelligence a une peine énorme d'accepter le silence, parce qu'on veut comprendre. L'intelligence a une peine énorme d'accepter le dépassement complet de l'amour. Pour que l'intelligence accepte ce dépassement complet de l'amour, il faut justement que l'intelligence meure à elle-même, qu'elle soit totalement donnée à Dieu. Or, elle ne peut être totalement donnée à Dieu que quand elle est justement entièrement brûlée par l'amour. Alors à ce moment-là, on accepte le silence, on accepte la patience. Et la cédille ne peut plus mordre sur nous. Tandis que si on ne l'accepte pas totalement, on veut nous-mêmes constater les progrès de l'amour. Et comme on n'en constate pas, on dit non, c'est impossible, c'est pas fait pour moi. Oui. On dit l'oraison, c'est pas fait pour moi, la vie contemplative, c'est pas fait pour moi. Parce qu'on veut constater. La cédille, positivement, la joie non donnée est donc bien un péché contre la charité fraternelle. Je ne crois pas directement que la cédille soit un péché contre la charité fraternelle. L'envie est un péché contre la charité fraternelle. Mais la cédille n'est pas directement un péché contre la charité fraternelle. Alors, y a-t-il une forme d'acédie par rapport à la charité fraternelle? C'est ça qu'il faudrait se poser, la question. Je crois que l'acédie est proprement vis-à-vis du bien divin, et proprement vis-à-vis de la joie de l'amour à l'égard de Dieu. C'est ça le propre de l'acédie. C'est de ne pas accepter le silence de Dieu sur nous. C'est de ne pas accepter que cette non-conscience de l'amour, le dépassement de l'amour par rapport à tout notre point de vue psychologique. C'est pour ça que notre point de vue psychologique d'aujourd'hui étant très développé, il faut que nous fassions particulièrement attention à la cédille. Parce que nous sommes des êtres très réflexifs. Ça, c'est sûr, c'est à la fois les qualités et en même temps les difficultés de notre monde d'aujourd'hui. Nous avons une attitude beaucoup plus réflexive qu'avant. Nous avons une peine énorme de rester dans un réalisme profond. La subjectivité risque toujours de l'emporter dans cette attitude réflexive. Et alors cette attitude réflexive est une pente vers la cédille. Parce que dans la cédille, C'est vraiment l'astuce de réflexivité qui domine. Nous ne tolérons pas que le bien divin, c'est-à-dire Dieu, soit pour nous un poids, une tristesse, un mur, quelque chose qui nous semble nous arrêter, une réalité qui a la place de nous porter et de nous permettre d'aller plus loin, soit pour nous un mur qui arrête et qui nous empêche de nous développer. Nous avons l'impression de nous enliser, nous avons l'impression de régresser, et c'est ça qu'on n'accepte pas, cette conséquence, si vous voulez, psychologique, que nous ressentons. On est trop pris par cette attitude réflexive qui fait que on n'est plus suffisamment dans cette volonté de don. La joie de la charité provient du don. Il n'y a plus de joie de se donner que de recevoir. Est-ce que la cédille s'opposerait à la charité fraternelle dans ses conséquences à cause de la lourdeur de la tristesse? Est-ce que des actes de charité fraternelle peuvent être moyens pour sortir de la cédille? Bon, c'est ce point de vue-là, c'est un point de vue, il y a une répercussion, c'est forcé, ça ne peut pas être autrement. Vous voyez, c'est très simple du reste à comprendre, quand vous êtes porté par la charité, par votre amour à l'égard de Dieu, quand l'exercice de l'amour divin se fait avec une très grande force, je dirais que la charité fraternelle est très facile. On est porté par Dieu, on devient source d'amour et de charité fraternelle. Lorsqu'on est alourdi par la charité, par la cédille, la charité fraternelle devient très dure. Donc il y a une conséquence directe, c'est bien évident. Mais la cédille proprement dite, c'est vraiment contre le point de vue de la joie de notre lien avec Dieu, de notre charité divine. Donc quelle conséquence? Alors, est-ce que des actes de charité fraternelle peuvent être moyens de sortir de la cédille? J'en suis sûr. Parce que c'est la manière de réactiver notre charité. Oui. La charité fraternelle impliquant quelque chose de plus immédiate pour nous au point de vue de la sensibilité, est sûrement un moyen de réactiver l'aspect volontaire de la charité. Parce que la cédille nous inhibe et fait que notre volonté est comme perdue et nous ne voyons plus la possibilité de réactiver notre volonté dans l'amour à l'égard de Dieu. Alors, sûrement que la charité fraternelle est un moyen. La charité fraternelle nous empêche de tomber. C'est pour ça qu'on dit que c'est toujours le solitaire comme tel, qui, parce qu'il est solitaire, ne peut pas exercer la charité fraternelle. C'est le grand moyen à Bethléem, vous voyez, de supprimer la cédille, en mettant l'accent davantage sur la charité fraternelle pour empêcher de retomber dans cette attitude de tristesse. Pour nous, jeunes d'aujourd'hui, quelle est la sortie ou le dépassement à cette pente de la cédille? Est-ce unique pour chacun? Donc on voit ce point de vue-là. Je crois que la charité fraternelle et l'exercice de la charité fraternelle est sûrement le grand moyen. L'autre grand moyen, ça doit être cette volonté de faire des actes d'adoration. Je reviens toujours à ça. Je crois. Il s'agit, vous voyez, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Réactiver notre volonté. Alors, quels sont les moyens par où nous pouvons réactiver notre volonté? Parce que c'est sûrement, mais c'est dit, provient d'un manque de volonté. C'est dit, est accepté, c'est un manque d'une volonté totalement au service d'un don. Quelqu'un qui a une grande volonté de se donner totalement, il peut ressentir la possibilité de la saisie, c'est bien évident. C'est une tentation qui ne pénètre pas. Parce qu'il y a cette volonté d'aimer. Et cette volonté d'aimer maintient une ferveur. Ce primat de se donner. Alors, il faudrait revoir tous les moyens par où on peut redécouvrir le moyen de se donner. Alors, je crois, charité fraternelle, qui est quelque chose d'immédiat, le point de vue de l'adoration, et maintenir une obéissance à l'égard de ce que représente notre règlement de vie. Et là, j'en suis sûr que c'est aussi un moyen de lutter contre la cédille. Vous voyez, c'est les trois pointes par où notre volonté peut s'exercer et demeurer en acte. Tandis qu'autrement, on se laisse prendre, inhiber par ça. J'attends le petit papier qui arrive. Vous pourrez en poser des questions encore ce soir, n'est-ce pas ? Parce que c'est un sujet qui est au fond très important pour nous. Si la cédille est proprement par rapport à l'amour de Dieu, à quel moment de la réflexion de la charité doit-on traiter la joie comme exigence de la charité fraternelle? À quel moment de la réflexion de la charité doit-on traiter de la joie comme exigence de la charité fraternelle? Mais tout simplement, quand on voit là, oui, je vois ce que vous voulez dire, la joie de la charité comme conséquence de la charité, regarde en premier lieu notre amour à l'égard de Dieu. Et puis il y a la joie de la charité fraternelle. C'est quam bonum et quam lucundum. C'est très vrai. Qu'est-ce qui vient supprimer la joie de la charité fraternelle? C'est l'envie. Quand vous commencez à loucher, à la place d'être dans la joie de voir votre frère heureux, votre sœur pleine de joie, et vous, non, vous êtes envieux. Et c'est l'envie qui lutte contre la joie de la charité fraternelle. Alors que là, c'est dit en premier lieu. Il y a une répercussion, c'est bien évident. Mais la cédille est premièrement par rapport à notre lien avec Dieu, par rapport au bien divin.
Père, est-ce qu'on pourrait rajouter dans les moyens l'étude aussi, parce que ça nous peut faire le bien spirituel?
Oui. Règlement de vie. J'ai dit l'obéissance. C'est plus immédiatement l'obéissance. Vous voyez ? Alors, dans l'obéissance, qu'on nous dise à ce moment-là, travaillez un peu pour réveiller votre intelligence, et que notre intelligence est sûrement un moyen de supprimer cet imaginaire terrible de la cédille. Parce que c'est quand même l'imaginaire qui nous plonge dedans. Mais lié à l'orgueil, je crois très fort. Et je crois très fort que ça provient de ce fait qu'on n'est pas assez dans cette petitesse évangélique. Vous voyez ? Et c'est pour ça que l'intelligence n'est pas immédiatement, on ne va pas directement en compte. Vous voyez ? C'est plus l'obéissance. Surtout quand on est plongé dans la cédille, est-ce qu'il y a encore goût au travail intellectuel ? à un travail théologique. Je crois que ça touche même ça. Alors c'est très difficile de lutter, vous voyez, par le point de vue de l'intelligence. Je crois qu'il faut prendre plus des moyens de petitesse évangélique, et c'est pour ça que je prends l'adoration, parce que des actes volontaires d'adoration nous aident, et nous pouvons. Je crois qu'on le peut toujours, ça, l'adoration. L'obéissance et la charité fraternelle. Oui, alors dans l'obéissance, j'inclus, mais ça dépendra de chaque corps.